We now come to our last speaker on the panel for this session, and he is Yvonne Labotte. Yvonne Labotte is a sociologist and an emeritus research director at the CNRS. He is co-holder of the Global Destinies of Latin America chair at the College d'Etudes Mondiales at the Fondation MSH, and he's a member of the Center for the Analysis of Intervention Sociologies, CADIS, at the School of Advanced Social Science Studies. His work deals with social and cultural movements, violence and exiting from violence, identities and democracy, mainly in Latin America. He has held a European Commission Marie Curie chair and has taught at numerous universities in Latin America, the US, and Europe. He was a consultant for the United Nations in the peace process in Guatemala and Haiti relating to human rights. He was a director of Latin America at the International Secretariat in London of Amnesty International in the year that the organization obtained the Nobel Peace Prize in 1977. Yvonne.
Thank you. Merci beaucoup. Bonjour. L'Amérique latine. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas s'il marche. Ça marche? L'Amérique latine passe pour un continent de violence, souvent extrême. Et c'est pourtant aussi une région qui, dans les dernières décennies, donne à voir le plus grand nombre d'expériences de sortie de violence à travers des négociations de paix, des transitions démocratiques, des mobilisations sociales et culturelles, des processus mémoriels. C'est un champ prolifique dont on essaiera de dégager des problématiques, dont j'essaierai de dégager ici des problématiques, des thèmes susceptibles de nourrir des analyses transversales et, si possible, une mise en perspective globale, comme c'est le projet de l'ambition de ce panel. Je ne propose pas un panorama exhaustif, encore moins une étude aboutie, seulement un canevas, quelques entrées, quelques axes dont le fil commun est une approche par les acteurs et les logiques d'action de ces acteurs. Alors, voici ces entrées, qui sont en l'occurrence des sorties, parce que je ne parlerai que de sortie de la violence. Sortie de la violence par la violence, on a déjà été question ici. Sortie institutionnelle. Politico-juridique, disons, sortie par les mouvements sociaux, par les productions culturelles, et finalement la question qui traverse toutes les autres, de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli. Alors, quelques mots d'abord sur les métamorphoses des violences, sur est-ce qu'on sort des conflits armés pour entrer dans d'autres types de violences? C'est souvent le cas, effectivement. Ça a été évoqué. L'Amérique latine est connue pour ses guérillas, ses dictatures, avec leur cortège de répression sanglante, parfois de terrorisme d'État. Sauf rares exceptions, les unes et les autres, c'est-à-dire les guérillas et les dictatures, se sont éteintes depuis environ un quart de siècle. Toutefois, les traces et les effets des violences des années 60-90 sont encore présents. Les blessures ne sont pas toutes cicatrisées. C'est en particulier le cas dans les pays qui ont connu des guerres contre la société, comme celle livrée au Pérou par l'État d'une part et par Sentier Lumineux d'autre part. Ou comme le génocide perpétré au Guatemala par l'armée et les paramilitaires. Par ailleurs, la disparition des guérillas et des dictatures n'a pas signifié la fin des violences. Dans certains pays d'Amérique centrale, Salvador et Guatemala particulièrement, le taux d'homicide est plus élevé aujourd'hui qu'à l'époque des conflits armés internes. En revanche, le Nicaragua a le taux d'homicide, c'est ça qui est bizarre, un des moins élevé même que le Costa Rica. Donc, vous voyez, il y a des choses un peu compliquées. Les violences révolutionnaires et contre-révolutionnaires ont laissé place, aujourd'hui, il y a eu vraiment un basculement, ont laissé place à des violences où se mélangent à doses variées les dimensions politiques et mafieuses. En Colombie, cette transformation s'est opérée à partir des années 80, au sein même du conflit armé, ce qui est l'une des raisons d'ailleurs de sa prolongation de ce conflit colombien jusqu'à nos jours. Dans l'ensemble de la région, on est entré dans une période qui est dominée par l'imbrication du crime organisé, de la finance globale et de la corruption politique généralisée. Dans les nouvelles violences, le pouvoir d'État n'est plus l'enjeu central. Le principal ressort est maintenant le contrôle du narcotrafic et d'autres formes de trafic, dont celui des migrants, ainsi que des flux financiers. S'affrontent dans ces nouvelles violences des groupes mafieux, des organisations politiques, étatiques corrompues et des groupes économiques, bien sûr. Les mafias s'inscrivent dans des réseaux transnationaux et gangrènent le tissu social, le système économique et politique. Cartels mexicains, les maras, ce sont des gangs d'adolescents ultra-violents en Amérique centrale, diverses organisations criminelles au Brésil, les massacres dans les prisons comme celui qui vient d'avoir lieu à Manaus au Brésil et comme ceux qui ont lieu de manière récurrente en Amérique centrale, Honduras en particulier, relèvent de ce registre-là de violence. Alors, les violences extrêmes qui se déploient ou qui se sont déployées dans la région peuvent éclairer, je pense, par un effet de miroir, celles qui ont lieu au Proche ou au Moyen-Orient ou en Afrique. Plusieurs auteurs, Olivier Roy parmi eux, ont signalé des points communs, des ressemblances dans les modes de recrutement, les modalités d'action, les stratégies de la terreur. Comme les cartels mexicains, Daesh, Boko Haram, AGMI aussi, mélangent violence paroxystique exhibitionniste et trafic en tout genre. Toutefois, la problématique de la radicalisation et de la déradicalisation, telle qu'elle est mise en œuvre dans les études sur le djihadisme, ne semble pas s'appliquer aux expériences latino-américaines. Je vais essayer de dire pourquoi. Entre la violence révolutionnaire et le terrorisme d'aujourd'hui, entre le guévarisme, par exemple, et le djihadisme, il y a une différence qui me semble essentielle et qui est bien définie par Baudrillard dans son texte sur le 11 septembre 2001. Les violences révolutionnaires, écrivait-il, visaient à transformer le monde. L'énergie qui alimente la terreur vise à le radicaliser par le sacrifice. Évidemment, on pourrait discuter et nuancer et établir un dialogue là-dessus avec Olivier, par exemple. Alors, la terreur des narcotrafiquants relève encore d'une autre logique. Elle ne vise ni à transformer ni à radicaliser le monde. Elle n'est pas portée non plus par l'idée de sacrifice. Et la sortie des violences politico-mafieuses se pose aussi en termes différents, plus compliqués et incertains que la sortie des conflits armés de la période précédente. Mais des négociations ne sont pas impossibles. Elles ont eu lieu parfois au grand jour, plus souvent clandestinement. En Colombie, par exemple, avec Pablo Escobar et le cartel de Medellín, mais surtout avec le cartel de Cali. En Amérique centrale, avec les Maras, au Salvador, un journaliste français y a laissé la vie d'ailleurs. Au Mexique, avec certains cartels contre d'autres. Le gouvernement jouait un cartel contre un autre, etc. Mais la typologie que je propose dans la suite, et si j'ai le temps, se réfère en priorité à des situations de violence à dominante politique. Alors, j'isole quatre types pour les besoins de l'analyse. Dans les faits, ils sont le plus souvent entremêlés. Premier type, la sortie institutionnelle, la voie politico-juridico-diplomatique. C'est la sortie la plus classique, le champ le plus exploré, celui pour lequel il existe la plus abondante, une énorme littérature en particulier ce qu'on appelle une littérature grise. Alors, l'interrogation qui est au centre de tous les processus de paix, de toutes les opérations de peacemaking, de peacekeeping, de peacebuilding, ou quasiment toutes, et celle-ci, comment passer de l'action armée à l'action politique. Dans l'Amérique latine des dernières décennies, certains conflits armés se sont terminés par la défaite, voire l'écrasement de l'un des protagonistes, sans négociation. En général, la défaite des guérillas. Guevara en Bolivie, les Tupamaros en Uruguay, les Montoneros en Argentine, Sentier Lumineux au Pérou, etc., etc. La liste est longue. Il y a deux cas seulement de défaite du pouvoir en place, sans négociation là non plus. C'est Cuba et le Nicaragua. Mais la région offre aussi un grand nombre de processus de paix négociés. En Colombie, ça a commencé il y a longtemps. Le premier accord de paix signé avec les FARC, c'était en 1984. Un endroit qui s'appelle Uribe. Pour ceux qui connaissent la Colombie, un petit clin d'œil. En Colombie, donc, depuis les années 80 jusqu'aux accords de paix, les derniers, avec les FARC, qui ont été signés là. En Amérique centrale, dans les années 80-90, Nicaragua, Salvador, Guatemala, mais aussi le Chiapas au Mexique. La négociation, signature d'accord. On considère en général qu'en Amérique latine, le passage des conflits armés à la politique a été globalement réussi. Comme le signale Eduardo Pizarro, dans aucun des cas mentionnés, il n'y a eu rechute. On peut discuter à petite quelques nuances. Et pour ces analystes-là, pour certains analystes en tout cas, c'est parce que contrairement à d'autres régions du monde, et ça rejoint ce qui a été dit ici autour de cette table par mes prédécesseurs, c'est qu'en Amérique latine, contrairement à d'autres régions du monde, il s'agissait de conflits politiques sans fond ou arrière-fond culturel, religieux, ethnique ou racial. Pour l'essentiel, je suis d'accord. Mais il faudrait quand même nuancer. Les éléments culturels, religieux et ethniques ou raciaux étaient très présents dans la guerre au Guatemala, jusqu'à lui donner d'ailleurs une connotation génocidaire. Et les accords de paix ont achoppé d'ailleurs sur cette question-là. Et puis dans les autres pays, il ne faut pas non plus négliger les aspects ethniques, religieux, au Pérou par exemple. Bon, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Autre constat, dans des sociétés très divisées et dont les divisions ont été accentuées et mises à vif par le conflit, les processus de paix gérés d'en haut par des acteurs institutionnels, des politiques, des militaires, des chefs guérilleros, des professionnels de la négociation, courent le risque d'être désavoués par une majorité ou une bonne partie de la population. La victoire du non au référendum du 2 octobre dernier en Colombie n'est pas un événement inédit, ni totalement surprenant. Une chose semblable s'est passée au Guatemala pour la ratification des accords de paix de 1996. Le non l'a aussi emporté, là, et cela a beaucoup influé, évidemment, sur la tournure très décevante qu'a prise la période de post-conflit dans ce pays, au Guatemala. Alors, aux négociations de paix sont directement liées des questions que, faute de temps, je vais simplement énumérer, mais qui seront des thèmes obligés dans les travaux de ce panel. D'abord, la thématique connue sous l'appellation DDR, démobilisation, désarmement, réintégration. Ce sont les questions qui occupent spécialement les experts, les organisations internationales, les ONG. Et elles ont toujours de fortes implications et conséquences politiques, sociales et culturelles. Elles ne sont pas simplement techniques, bien entendu. Un autre domaine que l'Amérique latine partage avec l'Afrique notamment est celui de la justice transitionnelle. Humberto de la Calle, qui était le chef de la délégation du gouvernement colombien aux négociations avec les FARC, affirme que ça a été le point le plus épineux, le plus difficile, le plus long à négocier de tout ce qui était sur la table à La Havane. Autre thème, mentionnons les procès pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité, qui, dans les dernières décennies, ont concerné surtout, comme on sait, les Balkans et l'Afrique, mais il existe aussi des cas en Argentine, au Chili, en Colombie, au Guatemala, procès même de Rios Montt. Parmi les acteurs institutionnels des processus de paix, une catégorie s'inscrit très directement dans la perspective de notre panel, celle des acteurs internationaux, transnationaux, les groupes d'État, les organismes des Nations Unies, les tribunaux internationaux, les églises, les ONG, des experts de diverses catégories et de différentes apparences institutionnelles. Le deuxième type que je voudrais dégager, c'est la sortie de la violence par la conflictualité sociale, par les acteurs sociaux. Alors, nous avons ici beaucoup travaillé, beaucoup d'entre nous, sur l'entrée et le développement des violences, des conflits armés, des guerres, du terrorisme, etc. En ce qui me concerne, j'en ai tiré en tout cas une conclusion qui me semble assez généralisable, c'est que les conflits armés ne sont pas le prolongement des conflits sociaux, contrairement à ce que pensaient beaucoup de gens dans les années 60-70. Ils en sont au contraire souvent une rupture, et en retour, la violence détruit les mouvements sociaux. Alors la question est maintenant, peut-on sortir de la violence ou l'éviter par la voie du mouvement social ou culturel ? Alors, les expériences latino-américaines dessinent à ce sujet des figures variées que l'on pourrait tenter de classer selon qu'elles sont antérieures, contemporaines ou postérieures aux périodes de violence. Les mouvements qui se réclament expressément de la non-violence sont rares, sinon inexistants dans la région. En revanche, on y observe de multiples actions collectives concrètes de prévention, d'évitement, d'esquive, de contournement de la violence. Et les meilleurs exemples sont les mouvements indiens qui ont fleuri et qui sont développés, qui ont certainement été les principaux mouvements sociaux dans les dernières décennies en Amérique latine. Et ils se sont efforcés dans l'ensemble de ne pas entrer dans la logique de la lutte armée. Et ils y sont parfois parvenus. Un deuxième cas de figure est constitué par les mobilisations de la société civile visant à contrer, à résister, à freiner, à enrayer un engrenage des violences déjà en marche, ou à s'y soustraire. Une illustration forte de ceci, la mobilisation massive à Mexico en janvier 1994, demandant l'arrêt des hostilités après le soulèvement zapatiste au Chiapas. Cette mobilisation massive a grandement contribué à stopper la répression et à infléchir l'insurrection armée dans le sens d'un mouvement civique. Autre dimension, les expériences latino-américaines de recomposition des conflits sociaux après les conflits armés illustre la difficulté de cette opération. Là où ont déferlé la terreur et les violences extrêmes, les mouvements sociaux ont le plus grand mal à renaître. Les politiques de terre brûlée ont eu des effets à long terme. Le Guatemala et le Pérou en sont les meilleurs exemples, ou les pires si l'on veut. Parfois, il faut une ou plusieurs générations avant qu'émergent de nouveaux conflits, de nouveaux acteurs sociaux. Ça a été le cas avec le printemps chilien de 2011-2012. Le Chili, d'ailleurs, illustre assez bien une alternative à un dilemme récurrent qui est transition politique ou conflictualité sociale. Pour les tenants d'une sortie exclusivement politique, et nous en avons parmi nos amis, en particulier nos amis chiliens, la renaissance des conflits sociaux risque de mettre en péril la transition démocratique et de provoquer une rechute dans la violence. Une bonne partie des secteurs dirigeants et de la société chilienne a intégré le récit pinochétiste selon lequel ce sont les mobilisations de la période Allende qui ont provoqué en réaction le coup d'État et que le maintien de la démocratie et de la paix sociale exige de contenir, voire de réprimer les mouvements sociaux. des lois et des décrets édictés sous la dictature ont continué ainsi à être utilisés par les gouvernements démocratiques contre les acteurs sociaux, contre les Indiens Mapuche, par exemple, notamment. Et c'est d'ailleurs contre cette situation, cette logique, et la logique qui la sous-tend, que s'est soulevée la jeunesse chilienne en 2011-2012. Troisième type, j'ai un peu de temps encore. J'irai vite alors. Troisième type, sortir de la violence par la création culturelle. Les actions de sortie de violence s'accompagnent souvent de production culturelle. Les deux dimensions sont très imbriquées. Mais il y a aussi des situations où la production culturelle est relativement séparée de l'action sociale, où l'emporte sur celle-ci. Il a déjà été question, Michel en a parlé, d'un exposé que nous a fait Andrea Grider sur le Rwanda, où elle nous a présenté il y a quelques jours son travail qui est de transformation des traumatismes du génocide par la poésie. Des ateliers, des happenings qui mettent en œuvre le pouvoir cathartique de la création artistique. Trouver des mots pour dire l'indicible, pour tenter de tenir l'horreur à distance. À l'inverse, après l'assassinat de son fils et des amis de celui-ci, le poète mexicain Javier Sicilia a pris la décision de renoncer à la poésie et de se consacrer à l'action, à la lutte contre le déferlement des violences au Mexique. On pourrait évidemment, je prends seulement ces deux exemples contradictoires et je passe à mon dernier point. Il y a une question qui mérite qu'on lui fasse une place à part, celle de la mémoire, l'histoire et l'oubli, pour reprendre le titre d'un livre de Ricoeur qu'un politicien français a rendu de nouveau célèbre, malgré lui, récemment. Il y a lieu de prêter une attention particulière à des expériences qui mettent expressément au centre les processus mémoriels. Les commissions de la vérité et de la réconciliation, les centres de la mémoire historique, dont on trouve de nombreux exemples en Afrique, le plus connu bien sûr est celui de l'Afrique du Sud, en Amérique latine, l'Argentine, le Chili, le Guatemala, le Pérou, la Colombie, connaissent des commissions de la vérité, de la réconciliation, des centres de la mémoire historique. Des musées de la mémoire aussi, dans certains pays, plus aléatoires, au Chili, au Pérou et un projet en Colombie. Les procès pour crimes contre l'humanité déjà mentionnés, ils ont également leur place ici, dans les processus mémoriels, tant il est vrai, comme l'affirme Sophie Davio que je vois là-bas, que l'une de leurs principales fonctions est de mettre en récit les mémoires, de produire une mémoire collective de la violence. La question des exhumations de charniers, Valérie Robin et Anne-Marie Lozonski viennent de consacrer un livre à ce phénomène en Amérique latine et en Espagne. Et l'objectif de ces exhumations, écrivent-elles, est triple. Rendre leur dignité aux défunts, apaiser leurs familles et permettre la réconciliation nationale. Alors, je ne peux pas terminer sans dire quelques mots sur les mouvements pour les disparus, pour la mémoire, contre l'oubli, particulièrement important en Amérique latine. Des organisations et des mobilisations de ce type ont vu le jour dans les pays qui ont connu des dictatures et des guérillas, ainsi que dans ceux qui ont été frappés par des violences politico-mafieuses, c'est-à-dire au total dans presque tous les pays de la région. Les femmes y jouent un rôle absolument capital. Tout le monde a entendu parler des associations des mères et grands-mères de la place de Mai à Buenos Aires, mais des associations de victimes ou de parents de victimes, souvent autonomes, parfois liées à des ONG ou à des églises, se sont développées depuis les lendemains du coup d'État de Pinochet. Dans la semaine même, un comité de ce type s'est formé au Chili, jusqu'au mouvement au Mexique d'Ayotzinapa. Le mouvement pour les disparus d'Ayotzinapa, c'est ces étudiants victimes d'un massacre en septembre 2014 dans l'état de Guerrero au Mexique, en passant par le Pérou, la Colombie, l'Amérique centrale, la liste est longue. Les notions même, c'est ça que je voudrais souligner, les notions même de disparus, desaparecidos, de détenus disparus, de disparitions forcées, ont été, sinon inventées, du moins développée et précisée à partir de ces luttes au Chili, en Argentine, en Uruguay, en liaison avec des ONG comme Amnesty International ou avec des juristes et des instances internationales. Alors, je termine. Ce texte est une ébauche, il n'appelle pas vraiment de conclusion. Je m'en tiendrai à une seule observation, en fait une question qui court en filigrane tout au long de m'exposé et qui m'angoisse quasi particulièrement, qui est celle-ci. Sortir de la violence suppose de sortir de la victimisation, passer du statut de victime à celui d'acteur. Comment s'ériger, et c'est la question, comment s'ériger en acteur devant les violences extrêmes, contre des forces qui détruisent toute capacité d'action, qui détruisent les fondements de la vie en commun, l'idée même d'humanité. Merci.